Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain consacré au pangolin et Bertrand Chamerois pour son écran de veille consacré en quelque sorte à l'après-pangolin, le déconfinement. Notre invitée, c'est la chanteuse Hélène Ségara pour Karma, son nouvel album. Et puis dans les indispensables, une découverte musicale grâce à Angèle Châtelier. Puis on va parler de Stevenson, l'écrivain, auteur notamment de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et bien vous savez quoi? Il a signé un récit de voyage qui se passe en France. Nicolas Caro, évidemment, l'a lu pour nous. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Bertrand.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe, bonjour Eva, bonjour la France,
Bertrand,
bonjour à tous.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. On attendait ça, non seulement, je vais arriver à le dire, votre écran de veille, mais aussi la phase 3 du déconfinement, et c'était hier.
Exactement, le couvre-feu repoussé à 23h, la réouverture des restaurants à l'intérieur, des salles de sport, du pain béni pour les chaînes info, qui comme à leur habitude étaient sur le qui-vive.
Oui, pour montrer cette impatience, on va vous montrer les tables qui sont d'ores et déjà dressées. On est quand même très en avance.
7h36 du matin, oui, c'est au-delà d'être en avance, 7h36. Alors, qui dit déconfinement des restaurants dit également déconfinement de mes duplex préférés, les duplex. La réponse est dans la question.
Vous aviez une terrasse, mais pas de service de soir. Ça change quoi, ce couvre-feu à 23h?
Eh bien, disons qu'on gagne 2 heures, donc ça permet de faire un service du soir. Ouais. Hier, des duplex partout, tout le temps, en direct de chaque établissement qui ouvrait. C'était le festival des questions fermées auxquelles on peut difficilement répondre non.
Vous êtes heureux aujourd'hui? C'est une étape importante.
Vous êtes heureux de retrouver les visiteurs, on imagine.
Ça fait plaisir de revoir des grands dans cette piscine.
Ça y est, c'est reparti, j'imagine que vous êtes soulagé.
Non, pas du tout, on aurait vraiment prolongé le merdier de quelques mois, ça n'a pas duré assez longtemps. Alors, ça devient une habitude à chaque étape du déconfinement, l'exécutif se met en scène, c'était encore le cas hier, Jean Castex a notamment déjeuné avec Bruno Le Maire et la plus grosse exclue sur le sujet, c'est France Info qui l'a décroché.
Marianne, on sait quasiment ce que va manger l'exécutif.
Quoi? Mais non. Alors arrêtez tout, on casse l'antenne, j'ai bien entendu, vous êtes en mesure de nous dire ce que va manger l'exécutif, c'est bien ça, dites-nous tout, je ne peux plus attendre.
Je pensais que le plat du jour, c'est le bœuf mode, puisque Majid Kiat y était tout à l'heure et nous l'a dit.
Voilà, je rappelle donc, merci pour cette information, Jean Castex a mangé un bœuf mode. Surtout, vous revenez vers nous dès que vous en savez plus sur le dessert. Ah, on me dit que la concurrence a du plus lourd sur le sujet. Oui, LCI, on vous écoute.
Il a flashé le code du restaurant lorsqu'il est rentré dans le restaurant.
Décidément, on va de scoop en scoop. Où tout cela va-t-il s'arrêter? Oui, à BFM, vous êtes en direct d'une guinguette où il se passe quelque chose, c'est bien ça?
J'ai même pas le temps de finir ma part de pizza, Maxime. Vous venez trop vite. Vous ne me laissez pas savourer avec la Ratchekov. C'est vrai que elle a un goût particulier, cette première pizza.
Eh oui, elle a un goût particulier. C'est l'émotion, ça. Hein. Mais celui qui a passé la meilleure journée de sa vie hier n'était pas journaliste de chaîne info, non. Celui qui a vécu une journée d'enfer, c'est Jean Castex, le Premier ministre qui, j'espère pour lui, avait embarqué 2-3 Malox dans sa poche. Enfin, je lui souhaite.
Le Premier ministre qui vient il y a quelques minutes de prendre un café.
Déguster une tête de veau à 6h du matin.
Un petit peu plus tard, il est chez Lip. Il va déjeuner chez Lip, c'est boulevard Saint-Germain, c'est un bon restaurant.
Et il va ensuite à la salle de sport.
Non. Ouais, voilà, belle journée. Hein. Malheureusement, pas d'image de Jean Castex sur un vélo elliptique, c'est dommage. J'aurais payé très cher pour voir ça. En tout cas, quelle journée pour le Premier ministre, mes enfants, quelle journée. Et à 20h50, on apprenait que Jean Castex est cas contact et placé à l'isolement. C'est ça, oui. À d'autres, il a commencé la journée au Côte-du-Rhône à 6h du mat à Rungis, il a picolé toute la journée et comme par hasard, monsieur est cas contact. J'ai pas poussé l'enquête très loin, mais voici ma conclusion. Jean Castex a simplement la gueule de bois. Hein, il a dû se réveiller avec une bonne petite pâteuse des familles en disant « Ok, merde, allez, on va dire que je suis cas contact ». Évidemment, on y a tous pensé au moins une fois, cette excuse. Il a bon dos le Covid. En tout cas, vivement, la réouverture des discothèques qu'on voit Jean Castex se déhancher sur un dance floor en direct sur BFM.
Merci beaucoup Bertrand Chamerois. Quel travail, merci beaucoup Eva, c'est l'heure de votre zapping, et là aussi c'est du travail, à quoi ressemblent les programmes du soir Eva?
Alors une opération de défense des animaux à travers 2 documentaires, le premier est un sujet diffusé dans Envoyé spécial sur France 2 et consacré à cet animal dont nous étions quand même nombreux à ignorer l'existence encore l'an dernier, le pangolin. Les journalistes sont partis sur sa trace depuis l'Afrique où il est chassé pour sa viande. Alors attention, certaines scènes sont particulièrement difficiles, jusqu'en Asie où l'animal lui a quasiment disparu. Or en Chine ou au Vietnam, les écailles du pangolin sont très recherchées pour des soi-disant vertus médicales totalement infondées, je vous rassure. Qu'importe, il y a un marché pour cela et des mafias qui organisent ce commerce, comme sur ce marché vietnamien.
Là, vous avez 50 grammes. C'est 500 euros le kilo. Donc ça vous fera 25 euros.
De 25 à 500 euros le kilo. Du marché de Mbandaka aux arrière-boutiques vietnamiennes, le prix des écailles a été multiplié par 20. Un bénéfice record pour ceux qui tiennent le trafic.
Alors ce reportage est édifiant, qui nous laisse avec sur un sentiment d'impuissance, parce que comment éviter cette chasse ? Comment faire en sorte que cette espèce ne disparaisse pas non plus de la Terre ? Eh bien ce sont les mêmes questions qui ont animé le cinéaste et plongeur Rob Stewart. Alors lui, il a choisi de défendre les requins, espèce menacée là encore, notamment parce que les hommes les chassent pour leur arracher les ailerons. Du Panama à la Chine, c'est toujours le même scénario, écoutez bien. Des mafias, du trafic illégal et des prix qui s'envolent.
Ici, ça vaut 5 dollars.
5 dollars ?
Oui, au plus.
Donc 5 dollars ici, mais en Chine, 200 dollars ?
Oui.
Vous voyez, c'est exactement le même scénario entre les deux reportages. Mmh. Alors Rob Stewart, lui, a choisi de traquer ses chasseurs en ramenant un maximum de preuves de la maltraitance imposée aux animaux. Il va plonger, par exemple, pour aller voir les dégâts provoqués sur la faune marine par les filets dérivants. Et écoutez bien, la plongée tourne mal, vraiment très mal.
Dépêche-toi !
Tiens sur nous ?
Ouais, on s'en va ! Allez, on y va ! Vite, vite !
On vient de filmer un requin renard et un requin bleu emprisonnés dans un filet dérivant, en banlieue de Los Angeles. Pendant qu'on était sous l'eau, tout à coup, j'ai aperçu un bateau au-dessus de nous. Et des gens se sont mis à tirer sur vous, l'équipe technique. Le requin bleu et le requin renard étaient toujours vivants. On pouvait voir leur bouche s'ouvrir et se fermer, ils se débattaient. Les mailles étaient coincées dans la gueule du requin bleu. Et le requin renard était estropié à force de s'être débattu vigoureusement dans le filet.
C'est hallucinant.
Ouais, ils n'ont pas été blessés, mais ce n'est pas la première fois que Rob Stewart échappe à la mort. Mais en fait, c'est sa vie, c'est son combat. Il a toujours défendu les animaux, quel que soit le danger. Et pourtant, au détour de ce film qui a été tourné en 2016, il évoque l'inquiétude de ses parents et il dit cela.
Je sais exactement de quelle façon je vais mourir. Et quand je vais mourir ?
Eh bien, la phrase était prémonitoire, mais je vous laisse découvrir pourquoi. Vous le verrez à la fin du film. C'est un documentaire poignant, rythmé par des images absolument sublimes de Rob Stewart dansant avec des requins, les cajolants. C'est d'une immense beauté. Mais le pangolin, lui, il est sur France 2 dans Envoyé spécial à 21h05. Et les requins, ils ne vous feront pas peur, vous verrez, sur Ushuaïa TV à 20h45 dans le documentaire Sharkwater Instinction.
Quel accent, quel talent. Merci Eva Roch, merci Bertrand Chameroy. Bertrand, on vous retrouve demain à 7h40 pour votre chronique. C'est La Touche Âme dans la matinale d'Europe 1. Et Eva et Bertrand, on vous retrouve tous les deux demain aux alentours de 10h. Dans un instant, nous serons avec notre invitée, la chanteuse Hélène Ségara. Elle sort un nouvel album. On écoute un titre de cet album. Il s'appelle Illusion dans le système.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
On vit sur la toile. Et on ne sait plus qui on est, se croire un peu spécial, se perdre et rêver. Nos vies sont trop banales pour savoir où nous raccrocher. Dans un monde abyssal, on croit oublier. Illusion dans le système, virtuel et connecté, sur les couples de problèmes. Illusion dans le système, juste un peu trop formaté. Des hommes et des femmes, des étrangers si reliés, des jouets sans âme et tellement désespérés. Vers qui se tourne?
Illusion dans le système, c'est Hélène Ségara sur Europe 1, invitée dans le studio. Elle est là avec vous, avec nous. Dans un instant, on va parler de Karma, son nouvel album dont ce titre est issu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Hélène Ségara.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Chanteuse, faut-il vous présenter, très populaire, élue chanteuse préférée des Français en 2001. J'avais retrouvé ça, c'était un sondage IFOP. Vous étiez fait connaître par un duo Vivo Perley avec Andrea Bocelli. Vous avez été Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris avant de sortir tube sur tube au début des années 2000, comme par exemple Il y a trop de gens qui t'aiment. Et j'ai lu qu'une fois, vous aviez reçu 12 disques d'or le même mois. Là, votre actualité, c'est un nouvel album. Il s'appelle Karma, dont on vient d'entendre le titre Illusion dans le système. Puis il y aura une grosse tournée à partir de septembre, dont deux soirs au Trianon, je le dis tout de suite. Mais d'abord l'album, le karma, je vais schématiser, c'est un principe hindouiste dans lequel votre vie, notre vie, notre destin dépend de nos actes passés et même de nos vies passées. Vous le voyez comment, il est comment votre karma à vous ?
Bah, on essaie de le faire, on essaie de le bonifier. Hein. En fait, je pense que si on croit au principe karmique, on est là, on est censé être là pour évoluer aussi.
Vous y croyez vous-même ?
Oui, je pense que je crois. Sinon, il y aurait. Pour moi, ça explique tellement d'inégalités. Pourquoi il y en a certains qui naîtraient dans des pays totalement défavorisés, dans la violence, dans la faim, et pourquoi d'autres arriveraient avec une petite cuillère dans la bouche, une petite cuillère en or. Donc, finalement, je me dis que c'est ma manière peut-être à moi d'expliquer ce manque d'équilibre.
J'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais si je comprends bien, le karma, c'est un concept indien, qui est un des pays les plus pauvres du monde, et en Inde, tout le monde naît en Inde.
Oui, oui, là on schématise un peu, mais disons que il paraît, quand on lit les livres sur le karma, ils disent que c'est nous qui choisissons où nous voulons nous réincarner, et c'est nous qui choisissons si on doit vraiment en pâtir et en souffrir pour pouvoir évoluer et s'élever spirituellement.
En Inde, il y a quand même le principe des castes. C'est un pays très pauvre, mais il y a aussi des très riches.
En fait, je ne développe pas sur l'Inde. Ouais. En fait,
vous développez quand même, je me permets de vous interrompre, parce que sur le CD, il y a un texte préliminaire dans lequel vous expliquez que c'est une quête commencée il y a bien longtemps qui vous a mené à cet album, nourri, je vous cite, de questionnements et d'états de conscience. Je vous cite encore, avec les événements de 2020, jamais je ne m'étais autant remise en question. Quel rapport entre votre carrière de chanteuse et la pandémie de coronavirus ?
Bah déjà, cet album, je l'ai fait avant la pandémie, à un moment où je me disais, c'est pas possible, on est tellement dans ce moment charnière où on sent que où ça passe, où ça casse, où vraiment, où, si on se remet pas en question, nous tous, si on continue à être aussi individualiste et qu'on se remet pas en question, forcément, le système va casser, ça pourra pas marcher éternellement, et il faut se poser des questions. Et c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez développé le côté karmique, mais moi, le karma, c'était surtout quelles conséquences auront nos actes. Ouais. C'est en ça que j'ai fait cet album. Il y a vraiment cette interrogation. Le premier titre, d'ailleurs, c'est « Puisque nos vies commencent ailleurs » et c'est « Loin vers une autre vie, tout recommencer ». Mais c'est peut-être pas dans un autre lieu qu'on doit recommencer. Déjà, recommençons, essayons de nous améliorer là où nous sommes.
Les paroles sont signées par vous. Comment vous avez choisi les thèmes ? Ça vous est venu comme ça au fil de la plume ou vous avez fait un plan comme
non,
si on faisait un film ?
Non. En fait, alors c'est marrant que vous dites ça parce que c'est un peu une bande sonore, un long métrage mis bout à bout. Mais non, j'ai pas calculé. Et en fait, il y a une ou deux chansons quand même où il y a plusieurs sens dans la chanson. Mais le lien, c'était quand même réaliser ce qui se passe, réaliser le présent et tirer des leçons du passé et essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'avenir.
Puisque vous citez le mot réaliser, je vais rebondir sur ce mot. Les musiques sont signées du réalisateur de l'album, qui est aussi votre mari, Mathieu Leca. Le son est plus moderne. Il y a des arrangements loin de la variété classique. Par exemple, dans Arium, il y a un effet trémolo sur la voix que je ne connaissais pas.
C'est vrai ?
Tout.
trémolo électronique sur la voix, ça change des arrangements classiques. Au passage, ça veut dire quoi, Arium ?
Arium, c'est un mantra de guérison. Et en fait, cette chanson démarre par tout. Je m'adresse aux hommes, mais pas aux hommes spécialement, aux femmes aussi, à l'humanité qui vit.
Homme, je précise, c'est OM, la syllabe magique, la syllabe mystique, mythique. Ouais,
c'est le diapason de l'univers.
Voilà.
Mais en fait, quand je m'adresse aux hommes, je dis aux hommes qui n'ont pas appris l'amour, aux hommes qui n'ont appris que la violence ou la haine. Qu'est-ce que je peux leur souhaiter ? Je peux leur souhaiter de guérir de ça. Et en fait, cette chanson est très planante, hein. Sauf la fin, je ne sais pas si vous l'avez écoutée jusqu'à la fin.
J'ai entendu tout le disque.
Et c'est vrai qu'en fait, on ne voulait pas que cet album ressemble à un autre. On voulait vraiment mettre notre patte à nous. On a pris 2 ans pour le faire.
Et ben, c'est très étonnant. Ça s'appelle Karma, l'album. Elle s'appelle Hélène Segarra. Elle est avec nous dans ce studio. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Segarra, son nouvel album vient de sortir. Non, il sort quand ce nouvel album ? Il sort demain, si je suis bien
informé.
Le 11.
Ouais.
Il s'appelle Karma. En 99, vous avez failli perdre votre voix. Vous avez été opéré d'un kyste à une corde vocale. Vous avez subi une opération au laser. Vous avez dit une guérison miraculeuse. Mm-hmm. C'est-à-dire quoi, miraculeux ?
Bah, c'est-à-dire que quand j'avais été à New York voir Gwen Corovine, qui est vraiment une des plus grandes spécialistes de la voix, on m'avait dit c'est foutu que je ne rechanterai plus. Et puis finalement, à ce moment-là, commencer à se pratiquer, mais c'était les balbutiements des opérations au laser, et Jean Abitbol a voulu tester sur moi.
Voilà. Et alors, c'est peu dire que ça a réussi, parce que je voudrais qu'on entende un extrait d'un titre de l'album. La chanson s'appelle « Plus jamais ».
Tous les mots qui nous blessent, les poisons que l'on dit, les regrets qu'on disperse, qu'on laisse dans l'oubli, tous les coups que l'on silence qu'on brise, les douleurs que l'on sait, les chagrins qu'on attise. Ressentir la présence quand les bruits nous soulèvent, quand on comprend vraiment que ce règne s'achève, ce que font les hommes, juste quelques hommes.
Je connais la chanson et quand même, il faut les sortir, ces notes. Hein.
Ouais. En fait, sur cet album, il y a une volonté dans certaines chansons d'être extrêmement douce, comme Orium, l'extrait que tu as mis. Et après, cette chanson-là, vu le texte, pour moi, ça pouvait se passer que dans la puissance. C'est-à-dire que quand on dit plus jamais, c'est que vraiment, on va crier quelque chose de très fort. Quoi.
C'est d'autant plus ironique qu'on vous a dit plus jamais, vous chanteriez. Donc vous avez bien gardé votre voix. Je sais que c'est un sujet qui ne vous plaît pas. Mais vos yeux, quand même, comment ça va ? Vous êtes passé 17 fois sur le billard pour ne pas devenir aveugle, vous avez un implant, vous avez une maladie auto-immune. Il y a des gens qui vous ont dit que c'était terminé pour vous et vous êtes toujours là.
Mais je suis increvable.
Je veux dire pourquoi je vous en parle. Parce que je ne parlerai pas, on n'est pas une émission médicale, on est une émission média, on est une émission culture. Dans le titre « Illusion dans le système » qu'on a entendu, vous dénoncez les réseaux sociaux, le monde virtuel est connecté. Vous avez vraiment subi le harcèlement sur les réseaux sociaux ?
Ah non, je n'ai pas subi le harcèlement par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des télés où on m'a parlé de ça, mais vous savez, c'est super qu'on soit en direct, parce que je vais vous raconter quelque chose. Je ne me plains jamais. Je ne pleure jamais devant les gens quand j'ai vraiment des difficultés ou des peines. Et je ne me plains jamais, je garde toujours le sourire quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'ai souhaité. Justement, illusion dans le système, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui garde le sourire quoi qu'il arrive. Et en fait, quand je fais une émission, à chaque fois, systématiquement, on me reparle de mes yeux.
Finalement, c'est normal, vous êtes la seule personne que je connais qui a subi 17 opérations aux yeux et dont vous parlez régulièrement. C'est normal.
Non, j'en
parle
pas régulièrement. Figurez-vous, j'en parle pas régulièrement puisque là, je rentre même pas dans les détails avec vous. C'est récurrent que les gens me posent la question. C'est récurrent que j'essaie d'éluder par un sourire. Mais malheureusement, les médias, j'ai fait un journal en direct il y a pas longtemps. Tout ce qu'ils ont retenu de mon interview qui était venu, j'étais venue pour parler d'un album, les médias n'ont retenu que cette question et ça a été repris partout. Par contre, on ne parle pas de mon album ou on ne parle pas quand j'essaie de lever des fonds pour une association. Là, il n'y a pas d'écho. Alors que là, dès qu'il s'agit de faire pleurer dans les chaumières ou d'essayer de créer ce côté victimisation que je déteste, alors là, par contre, il y a du monde.
Vous êtes venue, Hélène Segarra, pour parler de votre album et on parle des chansons. Vous restez avec nous, l'émission continue jusqu'à 11h et j'aime bien vous voir en forme comme vous l'êtes à l'instant. À tout de suite.
En forme de quoi?
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Segarra, son actualité, c'est demain, vendredi 11, la sortie de cet album qui s'appelle Karma. Et puis aussi, il n'y a pas seulement des albums, mais c'est le retour des concerts. Et vous avez une grosse tournée à partir de septembre, dont deux soirs au Trianon. Ça sera à Paris, donc les 25 et 26 septembre. Vous connaissez vos dates, vous connaissez les villes ou pas? Sinon, je peux les dire, je les ai notées pour vous.
Non, je
ne
les connais pas par cœur. Non, il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a beaucoup, beaucoup. Et des grosses, j'ai noté que les grosses entre octobre et décembre. On pourra voir, vous pourrez voir Hélène Segarra à Lausanne, à Genève, à Aix-les-Bains, à Lyon, à Aix-en-Provence, Tours, Liège, Bruxelles, Le Mans, Le Havre, Sochaux, Strasbourg, Thionville, Toul. Et en mars-avril, donc on sera en 2022, Lille, Troyes, Dole, Niort, Bordeaux et encore, ouais. J'ai mis la moitié seulement.
Oh non, vraiment, il n'y a pas la moitié même, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont se rajouter. Donc au fur et à mesure, je tiens les gens au courant sur mes réseaux sociaux.
Avec quelle configuration? Parce que vous avez l'habitude de faire des gros concerts, c'est pas une petite guitare, une petite flûte. Là, vous allez faire quoi?
En fait, quand on a composé cet album, quand on a écrit cet album avec Mathieu, on pensait directement à la scène. Pour nous, ça allait de pair. C'est-à-dire qu'on imaginait ce qui allait se passer sur telle chanson, etc. Et on savait dès le départ qu'on partirait sur un voyage très différent, que ça serait très particulier et que donc on ne serait pas du tout dans la même structure que ce que j'ai toujours fait. Et justement, ça m'excite beaucoup d'habiller la scène différemment, de préparer quelque chose de nouveau pour moi.
En l'occurrence, alors, mais il y aura un gros groupe, un petit groupe, qu'est-ce qui va se passer? Il sera tout seul avec
on
un synthé?
On pense à inviter des Martiens. Non, mais en fait, je ne peux pas tout dévoiler. Maintenant, on est en plein dessus. Non, je plaisante. Oh là là.
Bonjour, Angèle
Chatelier. Bonjour, vous pouvez appeler Thomas Pesquet. Oui,
bien sûr. Bah, voilà, j'aimerais bien Thomas Pesquet, par exemple, en guest.
Angèle, on va parler de musique avec vous et même aussi un petit peu de concert. Mais d'abord, on va découvrir le premier album d'une artiste qu'on a déjà aperçue à la télé.
Oui, vous la connaissez si vous êtes un fidèle de l'émission The Voice, à laquelle elle a participé en 2018, ou dans un autre genre, si vous avez regardé la série Canal+, validée sur l'industrie durable, voilà, dans laquelle elle apparaît. Je vous présente donc Liv Delestal.
On n'était pas fait pour semer, le monde entier nous éloignait. On s'était même promis, j'aurais, on l'a pas fait exprès. On n'était pas fait pour semer, le monde entier nous éloignait. On s'était même promis, j'aurais, on l'a pas fait exprès. On l'a pas fait exprès.
Liv Delestal a la vingtaine. Elle porte en elle toutes les couleurs du monde, si je puis dire, puisqu'elle est née d'un père argentin, d'une mère française, a vécu en Toscane et parle donc trois langues.
Et donc, beaucoup l'ont connue grâce à The Voice.
Oui, The Voice, saison 7. Ah. Sa reprise de Padam Padam d'Edith Piaf cumule plus de 4 millions de vues sur YouTube. Mais Liv Delestal dévoile maintenant sa musique à elle, avec sa propre sensibilité. Son premier mini-album, un EP, s'appelle Ma vie en vrac. Et c'est le vrac d'une mélancolique amoureuse, donc émotive, une mélancolie qu'elle chérit d'ailleurs, ce qu'elle m'a confié.
La mélancolie, aujourd'hui, je la salue vraiment comme une vieille amie. Hein.
J'ai pleuré l'océan Pacifique. J'ai pleuré l'océan Atlantique.
On se connaît. Quand je dis plus forte que ça, non, je n'ai plus peur de moi, c'est aussi ça. C'est accepter que j'ai ça en moi. Il faut savoir l'épouser parce qu'il peut être beau aussi.
On fait l'amour pour la première fois et pour toujours dans ma mémoire.
Et si la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, parfois ça fait du bien de se sentir bien dans ses basques, un peu plus confiant et en soi et en l'avenir. Et ça, Liv Delestal y travaille, en témoigne sa chanson forte. Écoutez.
Non, je n'ai plus peur de... Non, je n'ai plus peur de moi. Je m'en fais la promesse. Non, je n'ai plus peur de... Non, je n'ai plus peur de moi. Et j'entends les cris des murs.
Liv Delestal, donc, qui devrait bientôt pouvoir présenter ses premiers titres sur scène. L'Olympia, pour elle, sera peut-être pas pour tout de suite, mais la salle, oui, ça ouvre demain et vous allez nous le faire vivre.
Oui, tout à fait, j'ai hâte. L'Olympia rouvre ses portes et c'est ce soir, pardon, avec le festival du magazine Les Inrocks, avec une programmation pointue, donc actuelle, La Femme, le pianiste Chilly Gonzalez, La Révélation, Bonnie Banane, et puis Yel.
Je t'aime encore.
Ça faisait tellement longtemps, Angèle, qu'on vous avait pas entendu annoncer des concerts.
Ça fait du
ça
bien.
Ça fait trop plaisir.
On y est, ça fait du bien.
Réaction Hélène Segarra de ce qu'on
vient d'entendre. Alors, j'ai adoré cette petite là. J'adore ce grain de voix. Je trouve qu'elle est déjà très habitée. C'est fou, les gamines aujourd'hui, elles ont 20 ans. Ouais. Elles ont déjà tout leur univers. Et Yel, c'est ma copine. Et je trouve là, je suis très. Ouais, j'aime beaucoup l'affiche des Inrocks.
Vous y serez
Je pense pas, parce que demain, je travaille.
Oui,
mais
c'est complet, je crois, dans tous les cas. Donc...
Ouais, mais je peux aller gratter à la porte.
Hélène Segarra, on la laisse rentrer.
Je vais souvent liker leurs posts et tout. Non, j'aime bien.
Angèle, on se quitte en musique.
Oui, voici donc le groupe La Femme qui rouvrira avec d'autres la prestigieuse salle parisienne L'Olympia ce soir. Voici leur titre, Paradigme.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
C'était La Femme sur Europe 1. Ils seront ce soir dans le Festival des Inrocks à l'Olympia. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Nicolas Carreau qui va nous faire voyager à travers une œuvre méconnue de Robert Louis Stevenson.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Segarra, Karma, c'est son nouvel album qui sort demain vendredi. Son karma, c'était de rencontrer Nicolas Caro, notre monsieur livre. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors j'ai appris une chose grâce à vous. Vous allez nous parler de Robert Louis Stevenson avec deux livres méconnus. Stevenson, on le connaît pour L'île au trésor. J'ai découvert en préparant cette émission que c'est lui qui avait écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Mais bien sûr, mais le truc c'est que ça a été tellement adapté dans tous les sens, c'est tellement rentré dans l'imaginaire collectif. Dès qu'il y a un type qui est un peu bizarre parfois, qui change un peu de personnalité, on dit c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. C'est la marque des grands mythes, quoi. Tout le monde connaît Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout le monde ne sait pas forcément que c'est Stevenson qui a écrit en fait ce qui est un très très court roman. Hein. C'est une grosse grosse nouvelle en fait, Jekyll et Hyde.
J'ignorais et j'ai envie de le lire du coup. Deux livres pour le prix d'un avec lesquels vous êtes venu aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle Voyage en France, voyage avec un S, puisque donc Stevenson, effectivement, on connaît L'île au trésor, on connaît Jekyll et Hyde, ouais. Mais on connaît aussi parfois, c'est plus rare, le voyage avec un âne dans les Cévennes. C'est Stevenson qui raconte un voyage de 12 jours à pied dans les Cévennes en partant du monastier à côté du Puy-en-Velay avec son âne, Modestine. Je vais y revenir. Ce texte est dans cette nouvelle édition Voyage en France, mais il y en a un autre.
Un autre voyage.
Absolument. Un livre absolument inconnu de Stevenson, en fait, qui s'appelle En canoë sur les rivières du Nord. Ça se passe avant le voyage dans les Cévennes. Stevenson n'a pas encore 30 ans. Il n'a pas écrit L'île au trésor ni rien. Hein. Ouais. Et il décide de partir avec un copain, Walter Simpson, sur les rivières du Nord, donc, c'est-à-dire partir d'Anvers en Belgique, passer à Beaume, Maubeuge et continuer dans l'Oise jusqu'à Pontoise. Ce texte n'a pas connu du tout le même succès que le voyage avec un âne.
Il se passe quoi, en fait?
Eh bien, justement, viens. Parce qu'il est tout aussi génial. Les canoës s'appellent Cigarette et Arétuse. Arétuse, c'est la nymphe de la mythologie qui s'est transformée en source souterraine. Puis Cigarette pour un canoë, voilà.
J'allais le dire pour Arétuse, mais vous m'avez devancé.
C'est une sorte de road trip, un river trip, si vous voulez. On est fin 19e, donc c'est aussi un voyage dans l'histoire. Ils ne vivent pas des aventures extraordinaires comme les personnages de romans de Stevenson. On bivouac avec eux. On les regarde se brûler les doigts avec un réchaud qui marche mal. On les regarde se débrouiller avec leurs voiles, puisque ce sont des canoës à voiles. Je ne sais pas comment ça marche. Et bah, c'est très compliqué, manifestement, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes pour les régler. Et surtout, surtout, on rencontre des gens. Et c'est ça ce qui est bien avec Stevenson, c'est qu'il n'est pas du tout du genre à trouver tout le monde merveilleux, tout le monde sympa et tout. Il est parfois un peu taquin, comme quand il passe devant les briqueteries de Beaume. Beaume n'est pas un endroit agréable, écrit-il, et n'est remarquable que sur un point. La plupart des habitants, ils sont convaincus qu'ils savent parler anglais, ce qui en fait n'est pas du tout démontré.
il est de quelle nationalité, Stevenson ?
Il est écossais.
Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu autant de succès que le voyage avec un âne dans les Cévennes, ce livre-là ?
C'est le mystère et l'injustice de l'édition, mais aussi peut-être parce qu'il y a moins de mystère dans les rivières du Nord que
parce
dans
qu'il
le.
Parce qu'il y a du mystère avec les ânes ?
Bah, non, mais dans le Gévaudan et dans les Cévennes. Vous voyez, il y a la bête du Gévaudan, etc. Ouais. Alors ce voyage-là, donc le voyage avec un âne dans les Cévennes, il l'a entrepris parce que Fanny Osborne, dont il était éperdument amoureux, est repartie chez elle. En Amérique, en Californie, il doit l'oublier. Alors il part, il décide de s'isoler un peu. Son père voudrait qu'il rentre en Écosse et il menace de lui couper les vivres. Son père, il voulait qu'il soit ingénieur, le pauvre. Mais Stevenson donc passe un mois au monastier à côté du Puy-en-Velay et puis un jour, il part, il marche et il ira jusque dans les Cévennes. Pour porter son sac, il a besoin d'un âne, ce sera Modestine. Au début, il ne peut pas la supporter, puis au fur et à mesure, ils deviennent très amis. Et puis, il nous raconte, pareil,
on arrive en même temps,
c'est bivouac, c'est nuit à la belle étoile, Modestine et tout, ce qui se passe avec elle. C'est lui, au passage, apprend Hubert Prolongeau qui signe la préface, c'est lui, Stevenson, qui invente l'expression sac de couchage.
C'est pas vrai.
Ouais, j'ai appris ça là-dedans. Alors, je vous préviens tout de suite, ne lisez ce livre que si vous avez 10 jours de libre cet été.
C'est ça.
Parce que ça donne envie de partir immédiatement sur le GR70 qui est surnommé le chemin de Stevenson et qui reprend le parcours, l'itinéraire du voyage dans les Cévennes en partant du Puy-en-Velay.
Voilà, je ne vous demande pas une réaction, j'ai déjà entendu, mais ça vous tente. Pas le voyage, mais le livre.
Je ne suis pas sûre.
Ah bon, mince alors.
Pardon, hein, j'adore entendre parler de bouquins, mais ça ne serait pas ma priorité de lire ce genre de bouquin.
D'accord.
C'est magnifique pour toi.
Merci.
Bon, alors écoutez, je vais peut-être me laisser convaincre.
Moi, je prends. Moi, vous m'avez convaincu. Très bonne idée de lecture et de vacances. Voyage en France, donc, c'est chez Artaud. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Dernière partie de l'émission, Culture Média continue. Hélène Segarra est avec nous et on s'en réjouit. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Segarra, ce disque très personnel qui s'appelle Karma, qui sort demain. On parlait des réseaux sociaux, on parlait de grossophobie dont vous avez subi les foudres. Ça y est, c'est passé maintenant.
Bah écoutez, j'ai fait ce qu'il faut. Hein.
Vous avez porté plainte ?
Non, je vous ai dit, je ne suis pas une victime, moi.
Pour quelle raison vous n'avez pas porté plainte? Vous ne vouliez pas par principe?
Parce que je ne vais pas faire d'une minorité une généralité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent cesser dans ce monde, mais je ne pense pas que... Enfin, mes priorités vont plutôt à des choses encore plus graves que ce qui s'est passé pour moi, tout simplement.
Ce que je peux comprendre. Vous avez connu un énorme succès, vous avez connu les émeutes dans la rue quand vous faisiez vos courses, les sollicitations sans fin. Quel regard vous portez sur ces années-là et sur cette folie qui est même incompréhensible maintenant avec les réseaux sociaux? C'est une autre époque, il n'y aurait plus maintenant de pizzeria bloquée pour Patrick Bruel ou pour n'importe quel autre chanteur.
Je pense que moi, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que je suis quelqu'un... complètement normal, j'ai toujours, même à l'époque Notre-Dame, etc., j'ai toujours continué à faire mon marché, etc. Donc ça m'hallucinait un peu de voir les réactions des gens, mais j'avais toujours les mots pour savoir les calmer en disant mais enfin pourquoi, enfin c'est... Et je leur montrais que c'était dans leur tête, quoi, tout simplement.
Le 24 novembre dernier, c'était dans l'émission Je t'aime, etc., vous avez révélé que votre fils lui-même était victime de harcèlement scolaire. Est-ce que les choses se sont arrangées et pourquoi l'avoir révélé?
Mais vous aimez bien parler de ça, mais bah, sincèrement, vous pensez que ça a quoi comme rapport avec mon album? Mais vraiment.
Pas avec votre album, avec votre notoriété. C'est là où c'est très important.
Oui, non, mais je pense que...
Vous êtes invité dans une émission, par exemple celle de Daphné Burki, et vous parlez de ça, et on se dit, pourquoi parle-t-elle de ça?
Je l'ai fait dans un contexte où il y avait un garçon.
Et est-ce que ça a amélioré les choses?
Alors, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai fait parce qu'il y avait ce jour-là un invité qui sortait un livre et qui parlait de harcèlement, et on dit que très souvent, beaucoup de gens sont victimes. Il est évident que sans doute des enfants d'artistes en ont été victimes aussi. Mais c'était, je me sentais solidaire de ce que ce garçon ressentait parce qu'il a beaucoup souffert. Aujourd'hui, je viens parler d'un album, je ne viens pas ressasser ce truc-là. Et bien sûr, une fois de plus, les gens se jettent là-dessus. Alors oui, vous parlez de ma notoriété, mais je pense que si ma musique n'était pas bonne et pas intéressante, si j'étais là que pour parler de ma vie privée, ben je ferais de la télé-réalité, je ne ferais pas d'album.
Alors vous faites de la télé, justement, qui n'est pas de la télé-réalité.
Non.
Depuis 5 saisons, vous faites partie de La France, un incroyable talent sur M6. Vous êtes aux côtés d'Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy, Karine Lemarchand.
Oui.
Vous avez signé pour la saison prochaine?
Oui.
Oui. Et Show Me Your Voice, ça va revenir ou pas?
Alors, je sais pas, figurez-vous, je sais pas.
Il faut raconter le principe, c'est Issa Doumbia qui présente.
C'est vraiment drôle.
On voit des chanteurs, en fait, oui et non, on voit des chanteurs, mais on sait pas s'ils sont des chanteurs.
Ouais.
Vous devez deviner si c'est des pros ou
des fakes. Ou si c'est vraiment leur voix, ouais. Mais il y a des très bons comédiens, il y a vraiment des gros tricheurs. On s'aperçoit que les gens savent vraiment faire semblant, quoi.
D'accord. Et quoi d'autre? Quel autre projet vous avez?
Écoutez, là, j'ai déjà quand même un album qui sort, une tournée qui suit, une émission télé qui reprend donc pour une saison d'incroyable talent. Et il faut que je termine d'écrire un livre. Donc, je pense que déjà, il faudrait que mes nuits... Moi, je ne fais pas des nuits de plus de 5 heures. Et là, aujourd'hui, je vous vois, j'ai fait une nuit de 2-3 heures. Donc, il faudrait déjà allonger les journées parce que si je veux faire d'autres projets, il va falloir les allonger sérieusement.
Merci d'être venu. Alors, vous êtes réveillé ce matin pour nous. Un livre qui va parler de quoi?
En fait, j'ai commencé à intervenir il y a quelques temps, enfin, ça fait un petit moment maintenant, dans des conférences sur la pensée positive et la force du mental.
Ouais.
Et comme je tenais un carnet de bord, parce que finalement, je me dis qu'on peut tous se découvrir et puiser en soi des choses qu'on ne soupçonne pas. Et j'avais envie de faire un carnet de bord pour ça, pour que les gens qui parfois n'ont pas les clés pour se faire confiance, croire davantage en eux, positiver davantage, trouvent certaines clés. Et j'ai commencé à écrire ça. Et puis, la vie a fait que pour l'instant, je n'ai pas pu finir parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon papa. C'est des choses qui arrivent. Et c'est vrai que ce chapitre-là, j'avais pas envie de... Ça m'a un peu freinée dans mon euphorie, quoi.
Ouais. Vous continuez à écrire des chansons?
Toujours, j'écris tout le temps. J'ai toujours des notes, j'ai toujours des idées, des chansons, des textes. D'ailleurs, j'ai même envie d'écrire pour les autres. Et je pense que si j'avais vraiment du temps... j'ai commencé aussi il y a quelques temps des contes pour enfants. Parce que moi, quand j'ai eu mes bébés, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un énorme choix. Et que souvent, les contes audio qu'on proposait, il n'y avait pas des musiques à la hauteur de ce que j'espérais pour mon bébé. Moi, j'attends d'une musique qu'elle crée tout un univers, qu'elle puisse vraiment relaxer un bébé, etc. Et j'avais commencé ça, je cherchais un illustrateur. J'ai plein de projets que je n'ai pas encore finis. On m'avait proposé d'avoir ma propre émission de cuisine parce que j'adore ça.
Oui.
Et oui, j'avais fait 2 bouquins sur la musique, sur la cuisine, parce que c'est ma passion, sur la cuisine, mais la cuisine santé, pour manger gourmand mais sans trop grossir. Et ces livres ont été un succès. Donc avant le Covid, on m'avait proposé d'avoir ma propre émission cuisine. Après Covid, ça s'est tombé à l'eau, quoi.
D'accord, ah oui, c'est plus de sens. Et l'illustration, vous allez faire des contes pour enfants avec Mathieu Lecard. Pascal notamment.
Bah, j'aimerais bien que ça soit avec Mathieu, évidemment, puisque c'est vraiment la personne qui me connaît le mieux. Mais je pense que ça, c'est des choses qui viendront un peu plus tard, dans quelques années, quand ma vie se calmera un peu. Pour l'instant, je suis trop dans une course, mais qui me plaît, parce que je ne supporte pas d'être inactive.
Ouais, pour qui vous voudriez écrire ?
Pour qui ? Pour des gens sensibles, pour des gens qui parfois n'arrivent pas à exprimer l'intensité de leurs sentiments, pour des gens qui ont peut-être trop de pudeur, je ne sais pas.
Ouais, le titre de votre album, c'est Karma. Est-ce que vous avez des regrets ou est-ce que vous ne regrettez rien dans votre vie ?
Non, parce qu'en fait, je pense que les échecs, c'est ça ce sont les échecs qui nous enseignent. On tire tellement d'enseignements de nos erreurs. Donc, arrêtez de regretter, arrêtez de vous dire que vous auriez pas dû, que vous avez échoué, parce qu'en fait, il y a toujours une deuxième chance, il y a toujours une nouvelle journée qui commence et on peut toujours se rattraper.
On va entendre le son de Plus Jamais pour se dire salut, Hélène Ségara. C'est l'orchestration de Plus Jamais. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle ce nouvel album, il s'appelle Karma. Il sort demain et puis il y aura une énorme tournée à partir de septembre, dont deux soirs au Trianon à Paris. Mais ça va jusqu'en mars avec des dates partout dans la France et on retrouve ça sur vos réseaux sociaux.
Merci
beaucoup d'avoir été avec nous dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain pour parler de toute autre chose. C'est le lancement de l'Euro de foot. J'imagine que je n'apprends rien à personne. Nous serons avec les commentateurs de la compétition sur TF1, Julien Brun et Sabrina Delannoy. Et puis une chanteuse encore, Clara Luciani, pour Cœur, son nouvel album. Ah oui, dit Hélène Ségara, qui est partageuse, c'est votre chérie. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Bonne journée, c'est Anne Roumanoff qui me succède. L'émission s'appelle Ça fait du bien. Il y aura le flash et je vous dis à demain. Merci encore, Hélène Ségara.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.